Bon, ce matin, aujourd'hui, c'est la fête de mon épouse. Esther a 40 ans aujourd'hui. C'est la fête de Marie-Lise aussi. Je ne sais pas si Marie-Lise est là. Est-ce qu'elle est dans le coin? Ah, Marie-Lise est là. T'as pas 40, toi, hein? Non, OK. T'as pas 40 ans, toi, non, non. 30? Ah, t'es toute jeune. 30 ans. Bonne fête, Marie-Lise. Bonne fête, chérie. Je voulais juste te souhaiter bonne fête devant l'Assemblée. Dire combien t'es précieuse et t'es vraiment une compagne extraordinaire. Et c'est vraiment un privilège de servir le Seigneur avec toi. Je vous mentionne aussi pour la semaine prochaine, je fais certains efforts pour faciliter juste qu'on puisse plonger ensemble dans les Écritures. Et donc, vous avez... D'une part, pour cette semaine, vous avez à l'intérieur du dépliant de la semaine un plan de la prédication avec les points, tout ça, principaux, afin que vous puissiez prendre des notes. Et on en avait glissé, je crois, deux copies par dépliant afin que vous puissiez les partager, justement. S'il y en a qui n'en ont pas reçu de feuilles, on en avait fait d'extra au comptoir. Alors, prenez l'habitude, s'il vous plaît, d'aller les chercher, de les demander, tout ça, afin que vous puissiez prendre des notes et simplement... retenir davantage ce que Dieu nous montre dans sa parole. Et puis derrière, cette semaine, les deux ressources qui ont été mentionnées la semaine dernière, que je vais mentionner tout à l'heure, se trouvent là derrière. Alors, je vous invite à aller explorer, entre autres, le site d'Operation World, où il y a plusieurs ressources gratuites vraiment intéressantes, vraiment encourageantes. Et c'est une bénédiction, premièrement, pour nous de prier pour la mission, d'élargir notre vision et de découvrir ce que Dieu est en train de faire ailleurs. Cette semaine, on priait avec les enfants pour l'Angola. Et puis, c'était vraiment impressionnant de voir tout de même les progrès que l'Évangile fait dans ce pays-là depuis plusieurs années. Alors, nous, on a été touchés, on a été encouragés, on a été édifiés, puis on a été sensibilisés aux besoins de ce pays-là avec les enfants, avec la famille. Alors, je vais vous encourager à profiter de ces ressources-là. Je vous mentionne aussi, je vais essayer de le faire assidûment, on va essayer de glisser ça dans le dépliant. La semaine prochaine, on va être dans Actes. On va voir ensemble le passage du chapitre 1, verset 15, jusqu'au chapitre 2, verset 40. D'accord? Alors, prenez le temps cette semaine de lire ces passages-là, de lire, de le relire, de pouvoir aller déjà arriver avec vos questions, puis vous demander si Yannick va éclairer ça ou s'il va comme juste sauter ça, tu sais, peut-être qu'il va éviter un petit passage difficile, ou non? Mettre un peu d'intrigue, mais voir ce que Dieu est en train aussi de nous dire à travers ce passage-là et qu'on puisse se préparer ensemble, d'accord? Deux requêtes de prière avant qu'on plonge dans les Écritures. J'aimerais que l'Église puisse prier pour Rosely Siegenthaler. Je sais que c'est pas tout le monde qui la connaissait, l'Église grandit, tout ça, mais Rosely, c'est une dame qui est à notre assemblée, je suis pas sûr depuis quand, mais d'après moi, début 90 ou quelque chose comme ça. C'est une missionnaire laïque qui est venue de Suisse allemande pour venir servir ici au Québec. Elle a longtemps œuvré dans l'Église de Québec à Chauveau, et puis elle a longtemps œuvré au milieu de nous. Maintenant, c'est une dame qui est avancée en âge, elle vieillit, grosse perte de mémoire, assez chronique, et elle a, même régulièrement, de ce temps-ci, elle se remet à parler en allemand. Elle veut nous parler, puis elle parle en allemand, parce que le français ne vient pas, pour vous donner une idée, mais dans un moment où elle réussissait à parler en français, on nous a communiqué qu'elle demandait à l'Église de prier pour elle. Alors, c'est important qu'on puisse prier pour cette sœur-là. Monsieur Famelard, vous le connaissez parce qu'il court après vous pour vous demander des requêtes de prière. Il y a un bloc-notes comme ça avec des requêtes pour chaque personne qui sont régulières à l'Assemblée ici. Et Monsieur Famelard a fait un ACV au début de la semaine. Je ne sais pas si Madame Famelard est ici ce matin. Vous êtes là, OK. Alors, Monsieur Famelard a fait un ACV. C'est pas le premier. Il en a fait plusieurs à travers les dernières années. Ça demande une intervention chirurgicale cette semaine pour aller dégager un artère principal ici qui est largement obturé. Alors, on vous demande de prier pour cette intervention-là. D'accord? On va aller tout de suite dans la prière pour M. Famelard, pour Rosely et pour ce temps qu'on va prendre ensemble dans la parole de Dieu. Père éternel, nous venons devant toi parce que tu es Dieu. Parce que tu règnes dans les cieux et sur la terre, parce que tu domines toute la création, parce que tu es souverain, parce que tu es l'auteur de cet univers et l'auteur de nos vies, et tu es celui qui tient notre destinée entre ses mains, Seigneur. Nous venons devant toi avec un cœur reconnaissant pour Rosely, reconnaissant pour M. Famelard, pour leur témoignage, pour leur zèle pour l'Évangile. Seigneur, tant Rosely que M. Famelard ont démontré à travers leur vie chrétienne un zèle profond pour la proclamation de ton Évangile, se sont consacrés, Seigneur, à témoigner de Jésus-Christ. Je te prie, Père, pour Rosalie, alors qu'elle est dans cette perte progressive de lucidité, perte de mémoire, Seigneur. Père, toi, tu connais nos cœurs et tu as cette capacité surnaturelle qui dépasse tout ce qu'un être humain peut faire pour venir nous rejoindre dans notre être intérieur, Seigneur, dans notre intimité, dans notre cœur et venir apporter ta paix, Seigneur. Je demande de lui accorder cette paix dans ce moment où elle sent qu'elle perd le contrôle, elle perd la capacité de communiquer avec son environnement, Seigneur. Je te prie de lui accorder ta paix, ton repos. Cette paix, Seigneur, surnaturelle que tu donnes à tes enfants lorsqu'ils s'abandonnent à toi. Sois avec elle, Seigneur. Honore cette femme pour son zèle immense pour ton nom, Seigneur Jésus, pour ton Église. Je te prie, Père, de l'entourer de bons soins. Que ceux qui sont autour d'elle puissent, Seigneur, prendre soin d'elle, voir à ses besoins, aller au-devant de ses besoins, Seigneur. Je te prie, Père, d'honorer son amour pour toi. Merci pour sa fidélité, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour M. Famelard. Je te prie d'apaiser son cœur et de garder son zèle, Père. Et j'ai même pas l'ombre d'un doute que dès qu'il va pouvoir ouvrir la bouche, il va parler encore de toi, Seigneur, aux gens autour de lui à l'hôpital. Je te prie, Père, de mettre ta main sur l'intervention chirurgicale qui doit se faire pour restaurer sa santé. Père, on te prie pour Mme Famelard. On te prie de lui donner ta paix. De l'aider, Seigneur, à s'appuyer sur ta fidélité qu'elle connaît à travers toutes ces décennies de marche avec toi, Seigneur. Qu'elle puisse se tourner vers toi et expérimenter ta paix, Seigneur. Que ta bonne grâce soit avec eux. Père éternel, nous nous penchons sur tes saintes écritures. C'est ta parole et ce matin, nous voulons l'approcher avec humilité, Seigneur. Nous voulons approcher la Bible, le livre des Actes, avec déférence. Reconnaissant que tu as inspiré ces lettres, Seigneur, que tu as inspiré l'auteur Luc, afin de nous parler à nous. Et nous voulons te connaître plus intimement. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses ce matin venir corriger notre cœur, redresser nos pensées là où nos pensées ne sont pas conformes aux tiennes, Seigneur. Parce que notre désir ici, c'est que notre cœur batte là où ton cœur bat, Seigneur. C'est que nos priorités soient conformes à tes priorités. Notre désir, Seigneur, c'est d'honorer par notre vie, dans nos foyers, dans nos familles, dans notre témoignage, le précieux nom de Jésus-Christ. Alors, je te prie de parler à nos cœurs ce matin. Et si ce matin, au milieu de nous, quelques-uns sont sceptiques, sont des observateurs, ils sont là pour explorer, pour inspecter le christianisme et voir s'il y a quelque chose en définitive de vrai et de puissant ici. Je te prie de venir les rencontrer par ton esprit. Tu nous as promis, Seigneur, que ton esprit était avec nous et que cette puissance qui vient de l'Esprit Saint allait nous accompagner dans notre témoignage. Eh bien, ce matin, Seigneur Jésus, je témoigne de ton nom. Que ta puissance soit manifeste. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. On est en train de commencer cette série dans le livre des Actes. Alors, si vous vous joignez à nous ce matin et que vous n'étiez pas là la semaine dernière, je vous invite à aller écouter sur le site web ou vous procurer un CD pour écouter la prédication de la semaine dernière qui avait pas mal de matière, pas mal de contenu, j'en suis conscient. Mais j'ai cherché à faire une espèce de synthèse, un résumé de l'ensemble du livre des Actes afin qu'on puisse retirer davantage du livre au fur et à mesure qu'on va avancer. Dans une certaine mesure, la prédication de ce matin va encore servir à cela, puisque Luc est un excellent écrivain et il fait vraiment un prologue, il fait vraiment une introduction. Les 14 premiers versets du livre des Actes servent d'introduction à l'ensemble du livre et des thèmes clés qui vont revenir plus tard dans le livre sont clairement présents dans ces 14 premiers versets. Alors, soyez attentifs parce que ces thèmes-là vont être développés plus tard dans la suite du livre. Mais avant de regarder acte 1, j'aimerais que vous tourniez avec moi dans l'Évangile selon Luc. Comme je l'ai mentionné la semaine dernière, Actes est le volume 2 de deux volumes. Et donc, Luc avait écrit son évangile premièrement, et ensuite, il a écrit le livre des Actes. Je veux vous relire simplement Luc 1, les versets 1 à 4, puis ensuite, on va aller dans Actes pour faire ressortir un élément important de la démarche de Luc dans son livre, d'accord? Évangile selon Luc, chapitre 1, les versets 1 à 4, introduction. Soyez attentifs à l'intention de l'auteur ici. « Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Tourne avec moi dans Actes, chapitre 1. Je vais vous lire les versets 1 à 3. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. S'il y a une chose qui est absolument claire en lisant ces deux introductions à ces deux livres, c'est que Luc, l'auteur de l'Évangile selon Luc et des Actes des apôtres, était convaincu, sans l'ombre d'un doute, de la véracité des faits qu'il rapporte dans ces deux livres. Luc était absolument convaincu pour sa part, c'est une conviction ferme, claire, béton, que Jésus-Christ est un homme qui a vraiment vécu, historiquement à un moment donné dans l'histoire, que cet homme-là a véritablement été porté sur une croix, crucifié, qu'il est aussi véritablement ressuscité d'entre les morts. C'est une conviction claire de Luc ici. Qu'il est ressuscité d'entre les morts avec un corps physique, glorifié certes, mais physique. Qu'après être ressuscité, il s'est montré pendant 40 jours à un grand nombre de disciples afin qu'il n'y ait aucun doute sur sa résurrection. Il est clair aussi que Luc était convaincu sans l'ombre d'un doute que ce Christ-là est monté ensuite au ciel pour aller dans la présence du Père et qu'un jour, il va revenir de la même manière. Personne n'a le droit de douter de la conviction de Luc. Vous comprenez que je n'ai pas dit que c'était vrai? Je n'ai pas dit que j'ai des preuves scientifiques? Mais il y a une chose qui est claire. Luc avait fait toutes les recherches nécessaires pour établir cette conviction sans l'ombre d'un doute dans son esprit et dans son cœur. Au meilleur de toute son intelligence, il avait fait toutes les recherches nécessaires et Luc désirait que chaque personne qui allait lire ces deux livres puisse eux aussi se former une conviction. Il désirait que la foi de Théophile soit fermement établie et que Théophile puisse être convaincu de ces choses. Ça, c'est clair. Alors, je ne sais pas si vous avez la même conviction que Luc. Je ne sais pas si pour vous, ces choses sont des faits historiques, des faits certainement extraordinaires. On s'entend? Les résurrections, ça n'arrive pas tous les jours. Les ascensions comme ça n'arrive pas tous les jours. Mais je ne sais pas si pour vous, ces choses sont claires et nettes. Une absolue conviction. Si vous êtes convaincu de ces choses, si vous êtes convaincu que Jésus-Christ a effectivement existé et que ce n'est pas une espèce de Jésus historique duquel on devrait réécrire l'histoire parce que peut-être qu'il a déjà existé, mais pas exactement comme Luc le rapporte ici. Non, si vous êtes convaincu que Jésus a vraiment existé tel que Luc nous le raconte, si vous êtes convaincu que ce Jésus-là a été porté sur la croix, il a été crucifié, si vous êtes convaincu qu'il est ressuscité d'entre les morts le troisième jour, si vous êtes convaincu qu'il est monté au ciel, qu'il règne dans les cieux et qu'il reviendra un jour, ceci a des implications extraordinaires dans votre vie. On n'est pas en train de parler d'opinion politique, là. On n'est pas en train de parler de ce que j'aimerais faire pendant mes vacances cet été. On est en train de parler de choses qui bouleversent toute une vie. Et si vous êtes convaincu de ces choses, cela apporte des implications extraordinaires dans votre vie, dans votre manière de voir la vie, dans votre manière de voir la vie après la mort, et comment on devrait vivre dans cette vie puisqu'il y a une vie après la mort. Cela a des implications extraordinaires sur votre manière de faire face à la vie, de vivre le quotidien, de chanter des chants comme on a chanté tout à l'heure. C'est toi qui es l'auteur de ce jour. C'est toi qui m'as donné ce jour. C'est toi qui décides des épreuves que je vais vivre dans ce jour et des grâces et des bénédictions que je vais recevoir, puisque c'est toi qui l'as fait. Cela a des implications sur la priorité numéro un de votre vie. C'est ce qu'on va voir ensemble ce matin dans le livre des Actes. Si vous êtes convaincu de ces choses, la priorité numéro un de votre vie, je ne sais pas si c'est français, est impactée par ces vérités. C'est pas français. Vous m'avez compris. Maintenant, peut-être que vous n'êtes pas convaincu de ça. Et je ne veux pas vous narguer, d'accord, avec ce que je vais dire ici. Peut-être que vous êtes chrétien et n'êtes pas tout à fait convaincu de ça. Peut-être que vous êtes sceptique et n'êtes pas convaincu de ça. Sceptique, on s'entend, c'est normal. Mais peut-être aussi que ces choses-là ne sont pas clairement établies dans votre cœur. Ce n'est pas des convictions fermes. Et ça a des incidences aussi dans votre vie. Si on peut revenir à notre première acétate avec notre beau bonhomme qui est assis là devant son poste de télé. Tu veux-tu nous ramener la première acétate, Sylvie, s'il te plaît? Si ce n'est pas des convictions fermes dans votre vie, il se pourrait que votre vie chrétienne ressemble à ça. Il se peut que vous soyez en train de vivre la vie chrétienne puis vous dites « ouais, mais bof, bon ». Beaucoup de promesses, peu de résultats, pas si excitant que ça la vie chrétienne. Si vous n'êtes pas convaincu de ces choses. Et pour vous, la vie chrétienne, ben, tu sais, c'est bien dans les moments où je me consacre. Ça prend des loisirs pour rendre la vie intéressante. Donc, on va aller devant la TV. Si vous êtes sceptique, vous n'êtes pas chrétien, vous, ouais, OK, j'écoute, c'est intéressant, je veux regarder. Ça a des implications aussi dans votre vie. Ce matin, je ne suis pas ici pour manipuler personne, d'accord? Je sais, le prédicateur en avance, tu sais, ces gars-là, c'est tous des manipulateurs, puis regarde, il y a une foule qui vient les écouter le dimanche matin, il doit manipuler tout le monde. Je ne suis pas ici pour manipuler personne, d'accord? Je ne suis pas ici pour convaincre personne et imposer mes convictions. Pour ma part, j'ai les mêmes convictions que Luc. Je suis convaincu comme Luc de ça. Des fois, je ne vis pas à la hauteur de mes convictions, mais j'ai ces convictions. Mon mandat à moi, comme pasteur d'une église évangélique, c'est de vous exposer la parole de Dieu. Alors, je ne suis pas ici pour manipuler personne. Simplement, j'amène à votre réflexion l'idée suivante. Si vous n'êtes pas convaincu de ces choses comme chrétien, ça se peut que vous trouviez la vie chrétienne assez monotone, parce que vous passez à côté de l'essentiel. Et si vous êtes sceptique, il se pourrait que vous passiez à côté la plus belle offre qui vous sera faite dans votre vie et dans l'éternité. Voyez-vous, l'offre que Jésus-Christ vous fait, si Luc a raison, l'offre que Jésus-Christ vous fait, c'est le genre d'offre à ne pas laisser passer. Et c'est le genre d'offre à accepter avant de traverser, parce qu'elle ne sera pas renouvelée de l'autre côté. Si Jésus a dit vrai, de l'autre côté, l'offre ne se renouvellera pas. C'est maintenant qu'on l'accepte dans cette vie. Alors j'aimerais ça vous encourager, si vous n'êtes pas convaincu de ces choses, à prendre la série qu'on est en train de faire ensemble dans le livre des Actes comme une occasion d'examiner ce que Luc apporte ici. Prenez le temps de nous devancer, allez lire l'évangile de Luc par exemple, juste pour mettre ça comme toile de fond, puis venez nous rejoindre dans le livre des Actes et examiner ces choses et demander à Dieu. Demandez à Dieu de venir clarifier ces questions dans votre esprit, de venir vous donner une conviction. Jésus dit dans ce passage que son esprit va venir, une puissance qui va accompagner ses témoins. Et moi, je suis convaincu que l'Esprit de Dieu existe, même si vous ne pouvez pas le voir. Puis peut-être que vous me regardez avec un petit sourire puis vous dites, bon, un autre capoté. Peut-être. Moi, je suis convaincu de ça. Et donc, je n'ai pas de problème si vous voulez mettre mon Dieu à l'épreuve. en lui disant « Je vais lire la Bible, manifeste-toi à moi. » Réalisez à quelque part en cours de route que si vous mettez Dieu à l'épreuve et qu'il est Dieu, ça se peut que votre humilité grandisse aussi. Parce que vous ne mettez pas à l'épreuve un homme, mais vous mettez à l'épreuve Dieu. Et j'ai confiance que Dieu va se manifester à vous. Mais j'aimerais vous encourager à vous forger une conviction. Parce que cela a des incidences extraordinaires pour votre vie et pour votre éternité. Je vais vous lire les passages 1 à 14 dans Actes et on va les traverser ensemble ce matin. Je recommence au verset 1, d'accord? Acte 1, 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, parlant de Jean-Baptiste, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à ses yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. C'est la parole de Dieu. J'aimerais ça vous résumer, si vous avez les notes, vous pouvez tout simplement regarder dans la petite feuille de notes qu'on vous a glissée. J'aimerais attirer votre attention sur quatre éléments dans le passage qu'on regarde ensemble ce matin. Quatre éléments majeurs, il y aurait beaucoup à dire, il y a beaucoup de matière dans ce passage-là, mais il y en a une partie qui va être développée un peu plus tard aussi dans le livre des Actes. Alors, il y a certains des thèmes sur lesquels je vais pouvoir revenir un peu plus tard, un petit peu plus loin. Premièrement, Jésus est ressuscité. Cela ne fait aucun doute. Il n'y a aucun doute là-dessus aux yeux de Luc. Deuxièmement, avec sa mort et sa résurrection, son œuvre ne fait que commencer. Tout à l'heure, on va voir ça. Je crois que le livre des Actes est l'histoire de ce que Jésus a continué de faire. Et je crois que c'est ça que Luc veut enseigner. Troisièmement, avec son ascension, c'est-à-dire lorsqu'il monte au ciel, avec son ascension, il est plus présent et puissant que jamais par la venue de son Esprit-Saint sur tous ceux qui croient en lui. Et enfin, quatrièmement, ses disciples seront ses témoins jusqu'à son retour. C'est les quatre éléments essentiels que je voudrais faire ressortir du passage et qui, je crois, doivent dicter notre priorité numéro un sur la terre pour nous qui sommes disciples de Jésus-Christ. D'une certaine manière, on pourrait dire que le livre des Actes, l'évangile de Luc aussi, ont été écrits pour défendre le christianisme. Je pense pas que Luc et Actes ont été écrits pour des non-chrétiens, ça a été écrit pour des chrétiens, mais je crois en même temps que Luc savait qu'il serait lu par des observateurs, des gens qui explorent le christianisme, et Luc voulait affermir la foi, les convictions des chrétiens, et puis éclairer ceux qui seraient en train de chercher. Alors, dans un certain sens, ce récit-là est là pour nous instruire, mais en même temps pour défendre la foi chrétienne. Défendre la véracité de ces choses-là, démontrer que ce sont des faits. C'est pourquoi Luc a fait des recherches, s'est appliqué à faire des recherches minutieuses parce qu'il voulait démontrer que le christianisme n'était pas qu'une nouvelle religion. Lorsque le christianisme naît, lorsque Jésus intervient, quitte et que le christianisme commence à se répandre, on est dans une époque d'effusion de toutes sortes de mouvements religieux, de petites sectes, de petits mouvements. Certains sortaient du judaïsme, d'autres arrivaient d'ailleurs. Et je crois que Luc a voulu s'assurer que le christianisme ne soit pas perçu comme une autre de ces religions à mystère basées sur des mythes quelconques. Et il voulait que les chrétiens puissent avoir de l'assurance dans leur foi et savoir saisir, croire que le christianisme est basé sur des faits historiques extraordinaires, c'est vrai, mais historiques. Surprenant, c'est vrai, mais historique. Et dans la continuité de ce que Dieu avait commencé d'accomplir dans l'Ancien Testament. Luc tient à ce que les chrétiens, ceux qui sont ouverts à l'Évangile, soient absolument convaincus que cette foi ne repose pas sur un mythe, mais sur des faits. Le christianisme et le salut que le christianisme offre perdent tout son sens si tout ça n'est qu'une belle histoire. Si Jésus n'est pas historiquement mort et historiquement ressuscité, le christianisme tombe. C'est pourquoi lorsque vous allez dans des séminaires libéraux qui vont vous dire, ben ok, regarde, le christianisme, c'est des principes, c'est des valeurs, c'est des valeurs d'amour, c'est des valeurs de don de soi. Mais bon, peut-être qu'on pourrait démythologiser la Bible. Vous avez déjà entendu ça? Tout un processus par lequel on est allé vers le miraculeux dans les Écritures, puis on a dit, ouais, bon, peut-être qu'il y a une leçon à tirer derrière ça, mais il y a peut-être pas vraiment un miracle qui s'est produit ici, parce que, tu sais, c'est difficile à accepter, puis on a une approche plus empirique aujourd'hui, on est à un air scientifique. Voyez-vous, Luc savait déjà qu'à son époque, croire dans la résurrection ne serait pas quelque chose de simple. Notre époque, nous, en Occident particulièrement, nous regardons l'histoire et nous regardons les gens qui nous précèdent avec beaucoup de condescendance. Ces gens-là, c'était des simples, c'était des gens sans éducation, qui avaient certainement un QI inférieur au nôtre. Leur cerveau était probablement moins développé que le nôtre. C'est pourquoi ils pouvaient croire dans toutes ces niaiseries-là. Non, on fait pas ça, hein? On n'est pas comme ça. En fait, moi, je pense qu'on regarde le reste de la Terre exactement de la même manière. Fait que nos contemporains aussi ont fait ça en Occident. On regarde le reste de la Terre avec la même condescendance. Mais bon, en plus de ne pas venir de l'Occident, eux autres viennent d'une autre époque. Pff, oublie ça. Voyez-vous, à l'époque de Luc, Luc savait que ce ne serait pas facile à avaler comme pilule, cette affaire-là. Jésus ressuscité. Ouais, ben. Non, mais si vous avez lu les Actes, vous savez ce qui se passait quand Paul arrive à Athènes puis il commence à parler de résurrection. Il fait juste dire, tout le monde s'en va, il faut que j'aille prendre un café, on se reverra, on se rappelle. Regarde, laisse-moi ta carte. OK? Je suis sûr qu'on va se revoir un jour. Je le sens, on va se reparler un jour. Laisse-moi ta carte, je te rappelle. OK? C'est pas plus facile à croire dans ce temps-là parce que ça n'a jamais été quelque chose de commun. Les résurrections, ça n'a jamais été commun. Ça a toujours été extraordinaire. Si le christianisme ne repose pas sur des événements historiques, le christianisme tombe, perd son sens. Parce que le sacrifice de Jésus-Christ serait un sacrifice symbolique. Mais le sacrifice de Jésus-Christ est là pour apporter le pardon de péchés, d'abominations, de mensonges, de meurtres, de viols, d'adultères qui ne sont pas symboliques. Voyez-vous, quand moi je me pointe vers quelqu'un, puis paf, je donne un coup de poing sur le nez, c'est pas symbolique, c'est physique. Puis si je sors un gun, puis j'y mets sa tempe, que je tire une balle, c'est pas symbolique. C'est physique. Le péché n'est pas symbolique. Le péché est réel. La méchanceté du cœur humain est réelle. Les actes que nous commettons, les atrocités que nous commettons, ne sont pas symboliques. Lisez le journal, tableau. C'est pas symbolique. Mais le sacrifice de Jésus-Christ n'est pas symbolique. Et sa résurrection ne l'est pas non plus. Si c'est symbolique, ça ne vaut rien. Et c'était important, c'était primordial pour Luc de défendre et d'établir ces choses. Vous pouvez y croire, ne pas y croire, mais vous devez régler cette question-là si vous voulez saisir le christianisme. Et si Luc a raison, si ce n'était pas un hurluberlu, un autre flyé, s'il a raison, cela a des incidences énormes, potentiellement extraordinaires et heureuses pour votre vie, potentiellement catastrophiques pour votre éternité. Parce que si Luc a raison, il y a eu un seul sauveur, et il y a un seul sauveur qui sera un jour juge des hommes. Luc était absolument convaincu qu'il devait démontrer la véracité de ces choses. C'est pourquoi Luc nous dit que Jésus a pris 40 jours pour se manifester, pour se présenter à eux, pour leur donner des preuves. Bien sûr, pendant ce temps-là, il enseignait sur le royaume, mais là, les disciples pouvaient comprendre des choses qu'ils ne saisissaient pas avant. Hein. Lorsque Jésus est amené pour être crucifié, c'est comme « qu'est-ce qui se passe? » C'était pas ça le plan de match. C'était bon de jaser avec après, puis de dire « OK, t'es ressuscité, peux-tu nous expliquer de quoi? » Oui, il a pris du temps pour les enseigner sur le royaume, les aider à saisir c'est quoi le royaume. On voit qu'il aurait eu besoin de plus que 40 jours, n'est-ce pas? Parce qu'après, ils arrivent avec une question, puis il dit « C'est-tu maintenant que tu t'en reviens? » Ils n'ont pas encore compris le royaume. D'accord? Mais Jésus va prendre du temps, c'est vrai, pour enseigner sur ce qu'est le royaume. Maintenant, je crois que Jésus a pris 40 jours, s'est manifesté à autant de personnes, plusieurs centaines de personnes, dans un but bien précis. On est dans un temps d'attente. Lorsqu'on étudie le Nouveau Testament, puis au fur et à mesure qu'on avance dans les actes, on peut comprendre que tant que Jésus ne montera pas auprès du Père, l'Esprit ne sera pas envoyé. Et donc, on est dans cette période-là où on attend. On a Jésus ressuscité qui peut maintenant aller auprès du Père, être exalté dans la gloire auprès du Père et envoyer son Esprit. Mais il prend cette période de 40 jours dans un but, se montrer, se manifester, afin d'établir la véracité de ses faits. Et que sans l'ombre d'un doute, les gens puissent croire qu'il est bel et bien ressuscité. La suite du livre des Actes va servir à démontrer que ces choses-là étaient vraies. Par les vies qui vont être transformées, premièrement, les gens qui ont connu ces apôtres, tout ça, comme des gens de peu d'instruction, qui vont les entendre prêcher après, vont dire « Oh, boy, qu'est-ce qui est arrivé avec eux? » Ils ont fait un crash course à l'université en 2 jours, 3 jours, 30 jours. Qu'est-ce qui arrive? Une connaissance, une éloquence, une puissance accompagnée de miracles. Mais des vies bouleversées, des vies transformées. Pensez à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui est un persécuteur des chrétiens, qui va devenir un messager de Jésus-Christ. Alors voyez-vous, la suite du livre des Actes va servir à démontrer la véracité de ce qui s'est passé. Cette résurrection, cette ascension de Christ, le fait que Christ règne et qu'il vient changer des vies, qu'il y a vraiment un salut en lui. La suite du livre des Actes est aussi une preuve de cela par les vies transformées. Et je pense qu'il ne faut pas négliger pour nous aujourd'hui notre expérience personnelle et individuelle. L'Église à travers les âges et aujourd'hui est là par nos vies transformées, notre expérience personnelle de la grâce est là pour être un témoignage de la véracité de ces faits. C'est une preuve indirecte, d'accord? C'est une preuve indirecte. Mais quand même, c'est un message puissant. Lorsque nos vies sont transformées, lorsqu'une Église, une communauté vit autrement, différemment des valeurs qui ressemblent, qui reflètent les valeurs de Christ, avec abnégation, avec don de soi. Et c'est ce que Luc va établir dans les Actes en nous disant, vous êtes appelés à vivre autrement. Et lorsque vous allez vivre autrement, les gens autour de vous vont venir lire le livre, vont venir rencontrer cette personne, Jésus-Christ. Alors, premièrement, Jésus-Christ est ressuscité. Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus, selon Luc. Et il s'applique à en faire la démonstration. Le deuxième élément qui me semble important à comprendre ici dans le passage, c'est que Luc voyait le livre des Actes comme la suite de l'œuvre de Jésus-Christ. Pour Luc, l'ascension, lorsque Jésus monte vers le Père, ce n'est qu'une nouvelle phase dans l'œuvre de Jésus. Regardez avec moi le premier et deuxième verset. Et je sais que celle-là, il y en a qui vont dire, « il me semble que non, il est monté. » Il est monté, c'est-tu encore lui? Il me semble que c'est plus les actes du Saint-Esprit. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Je crois que Luc est en train de dire ici, dans mon premier livre, j'ai raconté ce que Jésus a commencé de faire jusque-là et maintenant je vais vous raconter ce que Jésus a continué de faire après. Voyez-vous, il y a toute une partie puissante et extraordinaire de l'œuvre de Jésus-Christ qui ne pouvait pas s'accomplir avant que Christ ne monte au ciel. Et lorsque Jésus est sur la croix, dans Jean, on lit que Jésus sur la croix s'est écrié à un certain moment donné, « Tout est accompli. Tout est accompli. » Je crois que Jésus est en train de dire simplement, « Tout est accompli pour que le salut soit offert aux hommes. C'est rendu possible. » J'ai eu la victoire, j'ai maintenu le bon combat. Mon sacrifice est là, il est offert. Le pardon des péchés va être rendu possible par cette œuvre. À l'intérieur du livre des Actes, vous serez attentifs, mais nous allons voir Jésus en action à plusieurs reprises. C'est lui qui va apparaître, c'est lui qu'on va voir, c'est lui qui va se manifester, c'est lui qui va choisir. Et ça, c'est important de saisir cet élément-là parce que lorsque Jésus promet dans Matthieu 28, le passage que j'ai lu tout à l'heure, quand je vous ai souhaité la bienvenue tout à l'heure, quand Jésus promet dans Matthieu 28 et il dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », est-ce qu'il est avec nous ou il n'est pas avec nous? Est-ce qu'il est au ciel puis il est parti? Est-ce qu'il continue à œuvrer? Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Ah, mais il est au ciel. C'est quoi? Il est devant une espèce de grand tableau, il y a un big iPad, méga iPad. Puis il est installé. Il contrôle son affaire, c'est ça? Ou est-ce qu'il est ici? Par son esprit, il est présent au milieu de nous. Et il est en train de faire son œuvre. Il est en train d'œuvrer au milieu de nous. Et Luc est en train de nous raconter ce que Jésus a continué de faire. Ce que Jésus a continué d'établir. Et il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Et pour autant que je le sache, on n'est pas rendu encore au bout du monde. Hein? C'est pas arrivé. Je me suis levé ce matin, puis il fait encore. Ah, ça s'en vient à un moment donné, OK? On n'est pas rendu? Pincez-moi quelqu'un, là, s'il faut que je me réveille. Mais il nous promet qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Et donc, il est présent ici. Laissez-moi tirer juste une question pour nous faire réfléchir comme Église. Quand vous regardez le Québec, quand vous parlez. Vous témoignez de Jésus-Christ avec des collègues de travail. Quand vous priez pour votre famille à qui vous avez déjà parlé de Jésus, puis vous savez, on a des phrases qu'on lance ici au Québec, les chrétiens, qui ont une incidence vraiment importante. Par exemple, le Québec, c'est une terre vraiment difficile à atteindre avec l'Évangile. Les Québécois, par ce qu'ils ont vécu à travers leur histoire, sont plus difficiles à atteindre avec l'Évangile. Et je crois que dans le fond, ça reflète souvent. C'est vrai que c'est difficile au Québec. Moi, j'aimerais ça aller dans le Bible Belt, annoncer l'Évangile. Ceux des États-Unis, tout le monde a déjà entendu ça. Tu arrives, tu fais une église cool, pop, 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 pop. Là-bas, ils appellent ça des unchurched. Nous autres, on appelle ça des ungodly. T'sais. Mais je crois que ça reflète de l'incrédulité dans notre cœur. Sérieusement, quand vous êtes en train de témoigner à quelqu'un dans votre famille à qui ça fait longtemps que vous témoignez, quand vous pensez à vos collègues de travail, quand vous pensez au Québec, atteindre le Québec avec l'Évangile, est-ce que quotidiennement vous avez cette conviction profonde que Jésus est avec vous dans cette mission-là? Que Jésus est là, qu'il vous devance, que le Père va attirer des gens à lui, qu'il est là dans l'œuvre, qu'il est présent avec nous? Ou est-ce que si on voulait être honnête, on n'a pas l'impression qu'il est peut-être ailleurs, mais disons qu'ici, c'était peut-être trop dur, tu sais. Il en a racheté une coupe, ils sont à l'Église de l'Espoir, puis une coupe d'Église au Québec. Est-ce que vous croyez vraiment, dans votre cœur, que Jésus-Christ continue son œuvre ici au Québec? Et pas seulement dans votre cœur, dans votre culte personnel, d'accord? Parce que ça, je le sais, On aime le Seigneur Jésus ici, puis on veut aller le rencontrer, puis on veut prendre du temps à prier, puis on voit comment Dieu est en train de faire une œuvre dans notre cœur, puis là, on regarde notre famille, puis on voit comment Dieu est en train de faire une œuvre dans le cœur d'Esther, dans le cœur de mes enfants, puis j'ai la foi pour toutes ces choses-là. Je les vois, c'est concret, je le vois. Oui, mais quand tu regardes à celui qui part à rire quand tu dis le mot Jésus, tu sais, pour lui, Jésus, c'est un gars sur un T-shirt en train de faire le DJ, tu sais. Est-ce que tu as la foi que Dieu est présent, que Jésus-Christ est présent, qu'il est à l'œuvre au Québec? Tout à l'heure, lorsque je vous disais que Luc est convaincu de ces choses, Luc était convaincu que Jésus-Christ continuait son œuvre à travers tout le livre des Actes. C'était une conviction ferme et profonde. Et c'est une question qu'on doit se poser alors qu'on va avancer dans ce livre-là ensemble. Est-ce que nous sommes convaincus que Jésus-Christ est encore présent et encore à l'œuvre, bien présent? Parce qu'il avait promis qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Troisième élément. Avec son ascension, il est plus présent et plus puissant que jamais par la venue de son Esprit-Saint sur tous ceux qui croient en lui. Luc prend le temps d'établir avec le début de ce livre-là qu'on arrive à un point tournant dans l'histoire de l'humanité. On arrive à un moment extrêmement important. Jésus est parti afin qu'un autre vienne. C'est drôle, lorsque j'étais en train de lire le passage, si vous êtes assez familier avec l'Ancien Testament, moi, le récit qui me venait à l'esprit, c'était Élie puis Élisée. Qu'est-ce qui s'est passé avec Élie puis Élisée? Élisée, c'était son protégé. Élie est un prophète. Élisée, prophète, protégé d'Élie. Et à un moment donné arrive lorsque Dieu dit, « Bon, ben mon Élie, ta job est faite, mon ami, le taxi s'en vient, tu vas monter au ciel. » Et ça s'est passé de manière assez similaire quand même. Une ascension, n'est-ce pas? Et puis là, au dernier moment, Élie dit à Élisée, « T'as-tu une petite requête comme ça en passant, mon Élisée? » « Oui, j'aimerais ça avoir une double portion de ton esprit. J'aimerais ça. » Puis Élisée lui dit, « Si tu vois ce qui se passe lorsque je suis enlevé, lorsque t'es présent, ça va se produire. » Et à ce moment-là, Élie est enlevé et Élisée prend la relève. Et il a fallu qu'Élie soit enlevé pour que son esprit, on s'entend, l'Esprit de Dieu qui était sur les prophètes de l'Éternel, vienne sur Élisée et qu'il puisse prendre la relève. Et c'est à ça qu'on est en train d'assister ici dans le livre des Actes. Je crois que ce moment dans l'histoire d'Élie, dans la vie d'Élisée, préfigure ce qui allait venir plus tard. Parce que Dieu avait promis dans l'Ancien Testament qu'un jour viendrait où son esprit ne serait pas seulement sur ses prophètes ou sur le roi qui est en train de conduire le peuple de Dieu, mais un jour son esprit serait répandu sur tous ses enfants, sur tout son peuple. Un cœur nouveau leur serait donné. Et des passages comme Joël 2:28 sont en train de s'accomplir, comme Ézéchiel. Dans Joël 2:28, voici ce qu'on lit. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » On va voir ça ensemble la semaine prochaine lorsque ça se produit dans les Actes. Mais c'est un moment historique. C'est un moment historique où l'Esprit de Dieu va être envoyé. Et pour que cela se produise, il fallait que le Fils de Dieu soit exalté dans la gloire à la droite du Père et qu'il envoie son esprit. L'Esprit de Dieu est communément appelé dans le Nouveau Testament l'Esprit de Dieu. Il arrive aussi qu'il est appelé l'Esprit de Christ. Ézéchiel 36, 26, 27. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Les prophètes de l'Ancien Testament avaient annoncé qu'un jour, viendrait où l'Esprit de Dieu serait donné à toute personne qui croit en Dieu. Et c'est ce moment-là qui est en train de se préparer. Et pour que cela se produise, il faut que le Fils de Dieu soit exalté dans la gloire du Père afin qu'il envoie son esprit. Et que les promesses, c'est ça qu'il est en train de dire lorsqu'il dit, mais d'attendre ce que le Père avait promis au verset 4. Le Père l'avait promis par la bouche de ses prophètes. Jean-Baptiste l'avait annoncé lorsqu'il a dit, moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi est plus grand que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers, parce que lui va vous baptiser d'Esprit Saint et de feu. Ce jour-là est en train de se produire. Maintenant, il y a quelque chose qui est important de saisir ici. C'est pour ça que j'ai pris l'image d'Élie et Élisée. Lorsque vous relirez l'Évangile de Luc, lisez l'Évangile de Luc avec une feuille, puis marquez juste Saint-Esprit, Esprit Saint, d'accord, sur une feuille. Puis chaque fois que l'Esprit Saint est nommé dans le livre, dans l'Évangile de Luc, prenez ça en note. Regardez ce qu'il est en train de faire, envers qui il est en train d'exercer son ministère, et probablement que vous allez avoir une belle surprise. Très tôt dans l'Évangile de Luc, au moment du baptême de Jésus, il nous est dit que le Saint-Esprit est venu sur Jésus et que c'est par la puissance de l'Esprit Saint que Jésus a opéré son ministère et a annoncé la parole. Il nous est dit ici dans Acte 1 que c'est par le Saint-Esprit qu'il a donné ses ordres. Voyez-vous, Jésus-Christ est Dieu incarné, c'est Dieu le Fils. Et pourtant, Jésus-Christ a fait son œuvre par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et il donne une promesse ici. Il dit à ses apôtres, restez à Jérusalem. Je crois que la ville est extrêmement importante. Le symbole était majeur. Mais il dit, restez là, puis attendez. Attendez ce que le Père a promis. Parce que bientôt, vous allez être baptisés du Saint-Esprit. Une puissance va venir sur vous. Le Saint-Esprit venant sur vous, une force nécessaire pour accomplir l'œuvre à laquelle vous êtes appelés, va venir sur vous. Si je lis bien l'Évangile de Luc et si je lis bien les Actes, je dois comprendre que c'est l'Esprit de Christ qui a accordé la puissance à Jésus-Christ pour faire son ministère, qui est accordé ensuite aux apôtres et à tous ceux qui croient en son nom, en Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous saisissez ce que ça signifie pour l'Église aujourd'hui? Tout à l'heure, je vous ai demandé, est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est encore présent, qu'il est encore à l'œuvre, qu'il est encore en train de bâtir son Église? Maintenant, la question que je vous pose, c'est, est-ce que vous croyez que l'Esprit qui était sur Jésus-Christ vous a été donné si vous avez cru en Jésus-Christ? Le même Esprit, la même grâce, la même puissance. On n'a pas exactement le même appel. Hein? Moi, je ne suis pas un Messie, il n'y en a pas ici. Il y en avait un, il a fait son travail. Il y a un roi, il y a un Seigneur des Seigneurs. Et pourtant, nous sommes appelés à continuer son œuvre. Jésus-Christ, à travers ses disciples, par la puissance de son esprit, veut continuer l'œuvre qu'il a commencé de faire. Est-ce que vous réalisez que ce même esprit qui était sur Jésus-Christ vient sur vous et en vous si vous croyez en lui? Cela doit faire une différence lorsque je m'en vais témoigner de Jésus-Christ dans la paix et l'assurance que je vais avoir. Dans la foi que je vais avoir. La question, ce n'est pas est-ce que tu vas être assez bon pour bien dire les choses? Pas ça la question. La question, ce n'est pas est-ce que tu as appris ton pitch de vente comme il faut? Ce n'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que tu crois que Jésus-Christ est ressuscité? Est-ce que tu crois que son esprit est sur toi? Est-ce que tu crois qu'il t'a fait grâce? Et est-ce que tu veux témoigner de sa grâce? Après ça, c'est son travail à lui. Après ça, c'est sa job à lui de sauver, de racheter. Est-ce que vous croyez, est-ce que vous saisissez que ce même esprit qui était sur Christ est sur vous et vous accompagne et vous accorde cette puissance qui a été promise pour remplir le mandat qui nous a été confié d'aller et de témoigner de lui jusqu'aux extrémités de la terre? Quatrièmement, ses disciples seront ses témoins jusqu'à son retour. Il y a quelque chose d'intéressant qui se passe, et je vais terminer avec ça ce matin. Lorsque les disciples assistent à l'ascension de Jésus, ça devait être quelque chose. J'aurais vraiment aimé ça être là. C'est comme, après ça, quand tu témoignes, c'est « Non, j'étais là. » Il s'est mis à flotter, man. Il n'y avait pas d'harnais, il n'y avait rien, il n'y avait pas de grue. Puis à un moment donné, il est disparu, tu sais. Fait qu'au moment où ça se passe, les gars sont là, puis... Non, mais t'as-tu vu? Et puis là, tu vois-tu encore? Ouais, je le vois encore un tout petit matin, il est en train de disparaître, là. Non, je pense pas ça, je pense que c'est un oiseau. Non, je te dis, je le vois encore. Puis là, à un moment donné, il y a deux hommes qui arrivent, habillés de blanc. Lorsqu'on connaît les Saintes Écritures, on sait que c'est des anges qui arrivent là. Puis les gars arrivent. Yo! Hey! Wake up! Qu'est-ce que vous faites, les gars? Ben, écoute, Jésus est monté au ciel! OK, ils vont revenir de la même manière. Allez faire votre boulot. C'est ça qui se passe ici. Allez faire votre job, les boys. Regardez un petit peu plus tôt. Un tout petit peu plus tôt, lorsqu'ils posent leurs questions, tu sais. OK, on n'avait pas compris, Jésus, on n'avait pas compris. C'est vrai, tu devais être crucifié. Wow, c'est vraiment big, ton plan. Hey, c'est quelque chose, t'es ressuscité. Ah, wow, génial. OK, est-ce que tu établis ton royaume maintenant? Eux autres sont prêts. Comme nous, on est prêts à jouir à quelque part de tout ce qui nous a acquis, puis on veut s'installer, puis on veut jouer. Ils disent, regarde, là, si tu viens, tu règnes, enfin. Bon, peut-être que, tu sais, on ambitionnait un peu en pensant qu'on serait à droite, à gauche, puis ce serait un gros royaume. Mais là, t'es ressuscité, on l'a catché, la patente. Est-ce que tu t'en viens tout de suite? C'est là que tu vas établir. Puis là, Jésus, il commence pas à dire, non, vous avez pas compris, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce qu'il va revenir un jour. Mais il dit, c'est pas ça qui est important, les boys. C'est vraiment pas important. N'attendez pas l'établissement de mon royaume et mon retour. Annoncez mon royaume. Votre job à vous, c'est ça. Vous allez recevoir l'Esprit Saint et vous allez aller annoncer mon royaume. Et c'est ça, en fin de compte, une des manières d'exprimer annoncer l'Évangile, annoncer la parole dans le livre des Actes, c'est annoncer le royaume de Dieu. Parce que chaque fois que je témoigne de Jésus-Christ et qu'une personne adhère à la foi, il entre déjà dans le royaume de Dieu. Il vient se placer sous le règne de Dieu. Il reconnaît la royauté de Jésus-Christ. Et il fait déjà partie du royaume. Nous attendons un temps où Christ reviendra, où toutes choses seront consommées et toute langue confessera Jésus-Christ. Les hommes seront confondus. Ceux qui l'ont rejeté seront confondus. C'est vrai qu'on attend ça. Mais notre mandat à nous, déjà, c'est d'aller et d'annoncer le royaume. Voyez-vous les questions eschatologiques, puis comprendre toutes ces grandes questions-là, c'est intéressant. Et dans une église comme celle-ci, où on met un grand accent sur l'enseignement, hey, je te dis qu'on aime ça, ces questions-là, c'est vraiment génial. Mais à un certain moment donné, quand je suis là, essayer de comprendre, tu sais. Il est parti, ça veut dire, il revient dans 2 ans, dans 3 ans, quand est-ce qu'il... Puis on commence à étudier les Écritures pour savoir quand est-ce, qu'est-ce qui se passe. Les boys, vous avez un autre job à faire. Voyez-vous, ici, dans les Actes, Dieu nous donne un espèce de cadre eschatologique. Je sais que je parle chinois pour certains. Un cadre historique dans lequel nous vivons. Depuis l'ascension de Christ, les témoins de Jésus-Christ vivent entre l'ascension et le retour de Jésus-Christ. Puis on a une job à faire en attendant. Tout le reste, on va mieux le faire au ciel. Êtes-vous d'accord avec moi? Tout le reste, on va mieux le faire au ciel. On a un travail à faire en attendant, c'est être témoin de Jésus-Christ. Ça, c'est notre mandat. Notre mission, c'est de témoigner de Jésus-Christ. Annoncer la résurrection de Jésus-Christ, la certitude de sa crucifixion, de sa résurrection, de son ascension, du pardon que nous trouvons en lui, ça c'est notre mandat. Nous sommes des témoins de Jésus-Christ. Et j'aimerais ça souligner quelque chose. Lorsqu'on dit qu'on va témoigner, je m'en vais pas tellement raconter mon histoire et ce que Jésus a fait dans ma vie. Je veux raconter l'histoire de Jésus. Alors c'est vrai que ma vie doit concorder. Comme Hugo l'a dit l'autre semaine, il faut que mes bottines suivent mes babines. Ça marche? Alors, c'est vrai, il faut que ma vie concorde avec ce témoignage-là. Si je ne ressemble pas à Jésus dans mon éthique de vie, tu auras beau japper fort, 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 le Seigneur va être gracieux, il va en sauver une coupe malgré toi, à cause de l'Évangile. Oui, il y a une place pour que mon éthique de vie soit conforme. Mais je veux témoigner de Jésus-Christ. Je veux annoncer qu'un Messie, un Sauveur est venu. C'est vrai, c'est factuel, il est mort sur une croix, il est ressuscité d'entre les morts. Et dans cette puissante œuvre, il y a le salut qui est offert à tous les hommes. La possibilité d'être réconcilié avec Dieu, la possibilité de recevoir dès maintenant une communion intime avec Dieu par son Esprit qui vient vivre en nous, la possibilité de vivre une vie nouvelle, de naître de nouveau. Et ça, c'est le témoignage que nous avons à rendre. Et si nous avons cette ferme assurance que ces choses-là sont factuelles, qu'elles sont vraies. Si nous avons cette ferme assurance que Jésus n'est pas parti en vacances dans le sud, mais qu'il est en train de régner, il est en train de présider tout ce qui est en train de se passer. Il est en train de bâtir son Église. Il est vraiment tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Si nous avons une certitude qu'il nous a donné son esprit, l'esprit qui était sur Christ, est en nous. Nous pouvons témoigner de Jésus-Christ et annoncer Jésus-Christ mort et ressuscité, assis à la droite du Père, qui revient bientôt. Amen. Maintenant, j'aimerais faire une application avec ce qui suit dans le passage. Et c'est vraiment sur ça que je m'arrête. C'est vrai. Les disciples n'ont pas reçu l'Esprit, d'accord? Nous, on est après les actes, donc... OK, nous... C'est le fun d'être là après, hein? Les disciples n'ont pas encore reçu l'Esprit. Alors, qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils quittent? Bien, Jésus leur a donné des directives, attendaient à Jérusalem. Fait que, ils sont allés là-bas, ils ont commencé à rénover leur maison. Puis, ils ont dit, il faut attendre à un moment donné. Pouf, ça me comme... Non, ils se réunissaient régulièrement, puis ils allaient dans la prière. Deux choses. Pourquoi est-ce qu'on prie les chrétiens lorsqu'on sait que Dieu donne des promesses? Parce que Jésus leur a promis. Pourquoi ils sont là dans la prière? Voyez-vous, nous prions pour rendre grâce à Dieu de ce qu'il va faire, pour confirmer que nous croyons dans ses promesses, pour attendre qu'il accomplisse ses promesses, pour lui demander de les accomplir, ses promesses. Alors, ils s'en vont là et ils vont dans la prière, louant Dieu, persévérant. Et regardez comment est-ce qu'ils ont prié ensemble. Ils étaient d'un commun accord et ils persévéraient ensemble régulièrement. Alors, j'aimerais vous proposer quelque chose, d'accord? Nous ne prions pas pour que l'Esprit-Saint nous soit donné. On vient après les actes et l'Esprit-Saint nous a été donné lorsque nous plaçons notre foi en Jésus-Christ. Mais je crois qu'une chose appropriée à faire, à tout moment, lorsque les chrétiens réalisent qu'à quelque part, on a perdu le focus, à quelque part, ma vie n'est pas alignée sur la priorité numéro un pour tout enfant de Dieu sur terre jusqu'au retour de Jésus-Christ, la bonne place où commencer, c'est d'un commun accord. Le peuple de Dieu va dans la prière. Un petit peu plus loin, dans Actes 4, on va voir les apôtres et les disciples qui vont se réunir pour dire, « Seigneur, on sait maintenant, on a besoin de ta puissance. On a besoin que tu nous accompagnes. On a besoin que tu viennes bénir lorsqu'on va ouvrir la bouche. » Alors, j'aimerais vous demander, on l'a dit au début de l'année, on va vous le répéter toute l'année. Cette année, nous voulons grandir dans notre évangélisation, témoigner à notre prochain de Jésus-Christ. Et nous voulons grandir dans notre vie de prière et on peut mettre les deux ensemble. Comme Église, est-ce qu'on peut, d'un commun accord, régulièrement, dans nos petits groupes, lorsqu'on se réunit, lorsque les sœurs se réunissent pour prier le dimanche matin, lorsque les frères vont prier ensemble, quand vous vous croisez ensemble, simplement vous dire, hey, te rappelles-tu Yannick qui nous encourageait, est-ce qu'on prie pour ça? Prions comme Église ensemble, afin que Dieu nous accorde la grâce d'avoir vraiment le focus, d'avoir des convictions aussi fermes que Luc avait des convictions fermes, afin que nous puissions croire que l'Esprit de Dieu est là. Il est présent aujourd'hui. Christ n'est pas en train de prendre des vacances. Il n'a pas oublié le Québec et il nous a donné un mandat. Nous, justement, on est à l'autre bout de la terre. Fait que c'est notre job ici, d'atteindre les gens avec l'Évangile. Et d'un commun accord, prions ensemble. Amen. La semaine dernière, je vous ai donné quelques outils pratiques, puis je veux le faire encore ce matin. D'accord? Alors, la semaine dernière, je vous ai parlé d'Operation World. C'est vraiment un bel outil pour grandir dans ce focus-là sur ce que Dieu est en train de faire dans le monde. Je vous dis, vous allez être bénis si vous prenez le temps de le faire. J'ai donné une suggestion aux dirigeants de petits groupes, peut-être, parce qu'évidemment, ce n'est pas tout le monde qui lit l'anglais. Peut-être qu'il y a une personne par petit groupe qui peut acheter le bouquin, choisir un pays dans la semaine, le partager avec le petit groupe. Juste, c'est vraiment génial. Ça donne des informations démographiques, géopolitiques, tout ça, l'État, l'économie, tout ça. Puis, où est-ce qu'on en est avec l'Évangile dans ce pays-là? Et puis, des requêtes de prière précises adaptées à ce pays, avec la réalité religieuse dans ce pays-là, à ce moment-là. Alors ça, c'est un outil pratique. Un autre outil que je vous ai proposé, une petite lecture, si ça vous tente de, tu sais, pour rester comme notre bonhomme, mais passer à l'action. Radical, David Platt, pasteur, jeune pasteur, complètement malade, d'une grosse église, mais en même temps en feu pour le royaume et qui fait plein de sacrifices justement pour faire avancer l'Évangile à travers la terre. Alors, si ça vous tente d'être brassé, c'est vraiment excellent pour retrouver le focus. Et enfin, dernièrement, ce matin, on a un autre petit outil pratique avec lequel vous allez pouvoir partir ce matin si vous avez quelques dollars dans vos poches. C'est un petit vidéo. Il y en a qui en ont entendu parler. Ça s'appelle God of Wonders. Et certains attendaient après ça. C'est un DVD. Je crois que c'est juste en anglais. Je ne suis pas sûr qu'il y a une track française dans les sous-titres. Oui! Ah, super. Dans les sous-titres, il y a une... Merci. En plusieurs langues. Excellent. Alors, ça, on va en avoir à l'arrière après. On va regarder un petit extrait ensemble. C'est une vidéo que vous pouvez utiliser pour donner à des amis, pour prêter, moi, je vous suggère, plutôt à des amis afin qu'ils vous donnent, qu'ils vous le remettent puis qu'ils vous donnent un petit peu de rétroaction là-dessus. Mais pour le prêter à des amis qui parlent justement de cette idée d'une création extraordinaire et à quelque part d'un Dieu qui est derrière ça. C'est vraiment bien fait. Et donc, cette semaine, vous pourriez retrouver le focus en prêtant ça à des amis, en vous le procurant après le service. On va regarder ça ensemble.
Made the universe so vast.
The energy that we have on Earth is only 1/1,000,000,000th of the amount of energy that's coming from the sun.
Everybody has been struck by the awesome beauty of lightning and storm and the smell of the fresh air.
These tiny little birds have a metabolic rate that just is almost unimaginable.
When the monarch butterfly changes from a caterpillar to a chrysalis to a butterfly, there are two completely different designs here.
Seeds are masterpieces of micro-miniaturization.
As you look at DNA, it actually cries out, in the beginning, God created the universe.
Alors, c'est un petit outil que vous pourriez vous procurer. Ça, c'était un trailer, je m'excuse, un prévu, que vous pouvez vous procurer pour 2 $ après, puis le passer à un ami, puis susciter des belles conversations, des belles discussions cette semaine, puis vous m'en donnerez des nouvelles, qu'on puisse avoir des témoignages de ce que Dieu est en train de faire à travers nous pendant qu'on traverse le livre des Actes. On va prier ensemble pendant que l'équipe de louanges s'avance. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir, Seigneur, pour tes bontés. Père, je suis personnellement le premier édifié par ce livre extraordinaire et par l'intégrité de cet homme, Luc, qui a mis son cœur, qui a mis son énergie à vouloir défendre et établir, Seigneur, ces choses comme étant véridiques. Je suis béni, Seigneur, de voir ta présence, ta puissance et ta grâce au sein de l'Église à cette époque, Seigneur. Et je veux grandir dans mon assurance, dans ma conviction que Tu es digne, Seigneur, de tes promesses. Tu te montres à la hauteur de tes promesses et tu es présent aujourd'hui, puissant au milieu de nous, afin que nous puissions être tes témoins jusqu'aux extrémités de la terre, Seigneur. Je te prie de nous faire grandir dans cette conviction au fur et à mesure que nous allons avancer dans ce livre, Seigneur. Viens affermir nos convictions afin que nous puissions aussi retrouver cette priorité de s'appliquer à être tes témoins, Seigneur. Et que plus de gens, davantage de personnes, Seigneur, puissent entrer dans le royaume de Dieu en plaçant leur foi en Jésus-Christ. C'est en son précieux nom que nous prions. Amen.